Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 se maintiennent en ce mois de février 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de la Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Coronavirus, l'Argentine commence à vacciner les personnes de plus de 70 ans et un variant britannique a été détecté dans le pays. L'ancien président Carlos Menem, qui a gouverné l'Argentine de 1989 à 1999, est mort à l'âge de 90 ans. Scandale au Pérou. Des fonctionnaires ont été secrètement vaccinés contre le Covid-19 avant la population. Le gouvernement argentin veut un accord avec les employeurs et les syndicats pour réduire l'inflation. Demande de durcissement des lois contre les féminicides après le meurtre brutal d'une jeune femme par son partenaire, un ancien policier. Sport, coup d'envoi du tournoi de football de première division. L'Argentine commence à vacciner les personnes de plus de 70 ans après l'arrivée de près d'1,5 million de doses. D'une part, un nouveau vol est arrivé ce week-end en provenance de Moscou avec 400 000 vaccins Sputnik V. D'autre part, une cargaison de près de 600 000 doses de Covid Shield produit par AstraZeneca et l'Université d'Oxford en collaboration avec le laboratoire indien Serum Institute est arrivée mercredi. Après une première étape au cours de laquelle les agents de santé ont été vaccinés, la campagne se poursuit maintenant avec ceux qui sont inscrits, entendu que l'inoculation est volontaire. Le gouvernement a confirmé deux cas du variant britannique du coronavirus, dont l'un sans antécédent de voyage, c'est-à-dire par infection locale. En outre, des écoles rouvrent leurs portes cette semaine dans plusieurs districts d'Argentine après une année 2020 de cours virtuels. La rentrée est étalée. Moins d'heures et moins de jours, et avec moins d'élèves par classe, en plus des masques obligatoires, de la prise de température et de l'ouverture des fenêtres et des portes à tout moment. Ces derniers jours, l'Argentine a dépassé le cap des 50 000 décès dus au Covid-19, dont 2 millions de cas ont été confirmés jusqu'à présent, parmi lesquels 150 000 sont actifs. L'occupation des lits de soins intensifs reste inférieure à 60% selon les données officielles. L'ancien président Carlos Menem, qui a gouverné l'Argentine de 1989 à 1999, est mort le 14 février à l'âge de 90 ans. Il était hospitalisé dans une clinique de Buenos Aires en raison d'une infection urinaire. Il a été enterré dans le cimetière islamique de La Tablada, à la périphérie de la capitale. Le président Alberto Fernández, la vice-présidente Cristina Kirchner, les anciens présidents Mauricio Macri et Eduardo Duhalde, ainsi que plusieurs dirigeants politiques ont exprimé leurs condoléances. Carlos Saúl Menem est né en 1931 dans la province de La Rioja, dans l'ouest de l'Argentine, et était fils d'immigrants syriens. Dans sa jeunesse, il s'est converti au catholicisme, mais a maintenu des liens avec la culture et la terre de sa famille musulmane. Il a commencé sa carrière politique dans les années 50, après le coup d'État qui a renversé Juan Perón. En 1973, il est élu gouverneur de La Rioja, mais il est renversé par la dictature de 1976 qui l'emprisonne pendant 2 ans. Après le retour de la démocratie en 1983, il remporte à nouveau les élections à La Rioja, puis les primaires pour devenir le candidat présidentiel du péronisme en 1989. Menem a fait campagne sur des slogans qui indiquaient un retour aux politiques de Perón, tels que l'augmentation des salaires et la protection de l'industrie locale. Il a remporté les élections avec plus de 47% et est entré en fonction au milieu d'une profonde crise économique et sociale, dont les principaux symptômes étaient un taux d'inflation de 5000% par mois et le pillage des commerces. Malgré ses promesses électorales, Menem a fait un virage de 180 degrés lorsqu'il est arrivé au pouvoir et a embrassé ce que l'on appelle le consensus de Washington. Ces directives prévoyaient notamment de réduire les effectifs de l'État, d'éliminer les barrières commerciales et d'attirer les investissements étrangers. Le gouvernement de Menem a privatisé les services publics, les chemins de fer et Aerolíneas Argentinas et a dissous les organismes qui réglementaient les exportations de céréales et de viande. En outre, il a fait pression pour une alliance inconditionnelle avec les États-Unis et a envoyé des navires de la marine à la première guerre du Golfe en 1991. Il a également rétabli les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni qui avait été interrompu après la guerre des Malouines, une revendication que son administration a mise en veilleuse. Il a gracié les commandants des forces armées condamnés en 1985 pour des violations des droits de l'homme pendant la dictature. La politique économique de l'administration Menem, dont on se souvient le plus, est celle dite de la convertibilité, qui liait la valeur du peso argentin au dollar. Un peso, un dollar, a réussi à ramener l'inflation à pratiquement zéro et a rendu les importations et les voyages à l'étranger accessibles pour beaucoup. Mais le revers de la médaille fut un chômage massif dû aux fermetures d'usines incapables de concurrencer les produits étrangers et au licenciement de milliers d'employés publics. Menem a été réélu en 1995, récompensé par une population qui appréciait la stabilité apportée par la parité des taux de change. Mais à la fin de son deuxième mandat, en 1999, l'Argentine était en récession depuis des années, et la pauvreté et les inégalités sociales avaient atteint des niveaux sans précédent. On lui reproche l'explosion économique et sociale de 2001 qui a conduit à une dévaluation massive qui a marqué la fin du système de 1 peso, 1 dollar. En 2003, il se présente à la présidence, mais il se retire du second tour contre Néstor Kirchner alors que les sondages prédisaient pour lui une défaite cuisante. Depuis lors, Menem est resté actif en politique, toujours lié à La Rioja, qu'il représentait au Sénat national. Après sa mort, la DAIA, l'organisation de la communauté juive argentine, a reproché à l'ancien président d'avoir couvert l'attentat à la bombe de leur mutuelle AMIA en 1994, qui a fait 85 morts. Il meurt libre, il n'a jamais payé pour son impunité, a déclaré l'organisation dans un communiqué. Par ailleurs, la municipalité de Río Tercero, province de Córdoba, a annoncé qu'elle n'adhérait pas au deuil national de 3 jours décrété par le gouvernement national en hommage à l'ancien chef de l'État. Dans cette ville, une explosion a détruit une poudrière militaire en 1995, tuant 7 personnes et en blessant 300 autres et causant d'énormes dégâts matériels. Selon une enquête, l'explosion a été intentionnelle, perpétrée par le gouvernement Menem pour camoufler la vente illégale d'armes à la Croatie et à l'Équateur. Écoutons comment la presse française a reflété la mort de Menem. France 24 et Radio France Internationale.
L'ancien président argentin Carlos Menem est décédé dimanche à l'âge de 90 ans à Buenos Aires après plusieurs mois de problèmes de santé. Il avait pris ses fonctions en 1989 en pleine hyperinflation. Il avait rapidement supervisé un changement radical dans les politiques économiques en indexant le peso sur le dollar américain et en privatisant des dizaines d'entreprises publiques, en réduisant l'inflation et en apportant une stabilité économique de courte durée. Pourtant, à la fin de son second mandat, le chômage et la pauvreté avaient fortement augmenté, tandis que son administration était embourbée dans une série de scandales de corruption. Et la dette extérieure croissante du pays avait jeté les graines du krach économique dévastateur de 2001 lorsque des millions de personnes avaient perdu leurs économies. Controversé et charismatique, Carlos Menem a tissé des liens étroits avec les États-Unis, alignant l'Argentine avec des politiques fiscalement conservatrices connues sous le nom de consensus de Washington. Il pouvait tout aussi bien côtoyer les dirigeants mondiaux que les célébrités internationales. Après avoir pris le contrôle d'un pays qui se remettait encore du régime militaire, il avait gracié des généraux militaires coupables de crimes contre l'humanité, provoquant la colère du mouvement des droits de l'homme du pays. Sa présidence a été marquée par le bombardement de l'ambassade d'Israël en 1992 et le bombardement en 1994 du centre communautaire juif AMIA. Carlos Menem avait été inculpé d'entrave à la justice dans le cadre de ses enquêtes, mais avait été déclaré non coupable en 2019. Sénateur depuis 2005, il s'était vu accorder l'immunité lorsque les tribunaux l'avaient reconnu coupable d'avoir participé à des ventes d'armes pour l'Équateur et la Croatie en 2013. Carlos Menem avait été hospitalisé ces derniers mois. Le président Alberto Fernandez a annoncé 3 jours de deuil national, tandis que son corps est transféré au Congrès national pour une veillée officielle.
Radio France Internationale.
Et prenons à présent la direction de l'Argentine. L'ancien président Carlos Menem est mort aujourd'hui à Buenos Aires. Il avait 90 ans. Carlos Menem a dirigé l'Argentine pendant un peu plus de 10 ans. Il a exercé deux mandats entre 1989 et 1999 et il était encore sénateur. L'actuel président Alberto Fernandez a décrété 3 jours de deuil national. Péroniste de la première heure, Carlos Menem était l'artisan du virage libéral de ce mouvement politique et il a aussi été impliqué dans des affaires de corruption. Voici son portrait avec notre correspondant Jean-Louis Boucher.
Élu en 1989 pour succéder au radical Raúl Alfonsín, Carlos Menem prend en main un pays en pleine crise économique et ravagé par l'inflation. Ce tribun charismatique met alors en œuvre un programme ultralibéral très éloigné du credo péroniste. La monnaie nationale est rattachée au dollar, les services publics sont privatisés, les investissements étrangers affluent, le pays bat des records de croissance et est cité en exemple par le FMI. Mais la situation se dégrade à partir de 1995 sous l'effet de chocs extérieurs et d'une perte de compétitivité de l'industrie nationale. Menem est pourtant réélu, tandis que le chômage et la pauvreté augmentent. La crise s'aggravera avec son successeur Fernando de la Rúa et terminera de façon violente en décembre 2001. Les années Menem seront aussi marquées par des scandales et des affaires de corruption pour lesquelles l'ancien président a fait l'objet de poursuites judiciaires. Condamné tardivement dans certains procès, il a pu échapper à la prison grâce à son immunité parlementaire en tant que sénateur. Sous sa présidence, l'Argentine a aussi été victime de 2 terribles attentats terroristes contre l'ambassade d'Israël et contre la mutuelle juive Amia, attribués à l'Iran, mais qui n'ont toujours pas été élucidé. Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Un scandale politique a éclaté au Pérou après qu'il a été révélé que plusieurs fonctionnaires avaient été secrètement vaccinés contre le Covid-19. Parmi les personnes impliquées, il y a l'ancien président Martin Vizcarra qui a été mis en accusation par le Parlement en novembre 2020 dans une affaire de corruption. Vizcarra et d'autres membres de son gouvernement ont été vaccinés avec des doses provenant du laboratoire chinois Sinopharm qui sont arrivées dans le pays sud-américain entre septembre et décembre. L'ancien président s'est défendu en assurant que son inoculation n'avait pas été annoncée afin de préserver la confidentialité du processus d'essai du vaccin. Cette nouvelle a suscité l'indignation dans l'un des pays les plus frappés par la pandémie du coronavirus avec plus de 40 000 décès. À la suite de cette controverse, les ministres des Affaires étrangères et de la Santé, entre autres, ont démissionné. En ce qui concerne la vaccination en Amérique du Sud, le Chili est le leader régional pour le nombre de vaccinés, avec plus de 1,5 million en moins d'un mois. Selon le site web Our World in Data, depuis le début de la campagne, le 3 février, 7% des 19 millions d'habitants ont déjà reçu une dose de Pfizer ou de Sinopharm. Les premières livraisons de vaccins sont également arrivées ces derniers jours en Colombie et au Venezuela. 50 000 doses de Pfizer et 100 000 doses de Sputnik V respectivement. Au Brésil, pour la première fois depuis plus d'un siècle, le célèbre carnaval n'a pas été célébré en raison de la pandémie, donc pas de défilé de samba, juste quelques danseurs costumés qui se promenaient dans les rues vides. Le gouvernement argentin prétend conclure un accord avec les employeurs et les syndicats afin de contenir l'inflation qui en 2020 a dépassé les 36%. Lors d'une réunion cette semaine, le chef de cabinet, Santiago Cafiero, a déclaré qu'ils veulent éviter que les efforts des entreprises et des travailleurs ne tombent dans le piège de l'inflation. Selon le ministre de l'économie, Martin Guzmán, l'objectif est que l'inflation n'atteigne pas 30% en 2021 et que les salaires dépassent 7 barres de 5 ou 6 points. Un des participants du secteur privé a révélé à la presse qu'il existe un consensus pour revoir la chaîne de production afin de trouver les causes des hausses des prix. Un autre homme d'affaires a déclaré qu'il espérait que le dialogue avec le gouvernement conduirait à la correction de ce qu'il a appelé les impôts qui faussent la concurrence. D'autre part, le président Alberto Fernandez a assuré les représentants des organisations rurales qu'il n'augmentera pas les taxes à l'exportation sur les céréales, contredisant les rumeurs sur de nouvelles taxes sur le soja, le blé et le maïs pour contenir le prix des denrées alimentaires au niveau local. Un féminicide a bouleversé une fois de plus l'Argentine et a ravivé les appels en faveur de lois plus sévères contre la violence de genre. Ursula Bailo, 19 ans, a été retrouvée morte de 30 coups de couteau dans une zone rurale de Rojas, la ville de la province de Buenos Aires où elle vivait. Le principal suspect de ce crime a été arrêté. Son ex-partenaire, Matías Martínez, 25 ans, un officier de police provinciale en congé psychiatrique. Le meurtre a suscité l'indignation car l'homme avait été dénoncé à plusieurs reprises pour violence et Ursula elle-même avait signalé la situation aux autorités et envoyé des messages à ses amis pour leur faire part de sa crainte pour sa sécurité. À Rojas, des voisins ont défilé jusqu'au commissariat pour demander justice et certains manifestants ont mis le feu à une voiture de police. Des rassemblements ont également eu lieu à Buenos Aires et à La Plata pour demander une plus grande action de l'État contre la violence sexiste. Selon l'ONG Lucía Pérez, depuis le début de l'année 2021, 37 féminicides ont été commis, soit près d'un par jour. Il faut rappeler qu'en 2015, le mouvement Ni Una Menos, pas une de moins, est apparu dans le pays contre les féminicides et la violence sexiste. Mais malgré certains progrès en termes de conscience sociale, les femmes continuent de mourir aux mains de leurs partenaires ou ex-partenaires. Les organisations féministes dénoncent que la situation s'est même aggravée en 2020 lorsque de nombreuses victimes ont été contraintes d'être confinées par la pandémie avec leurs agresseurs. Sport. Le nouveau tournoi de football professionnel en Argentine a débuté, la Coupe de la Ligue. Entre autres rencontres, Banfield a battu Racing 2-0, San Lorenzo 2, Arsenal 1, Boca 2, Gimnasia Grima La Plata 2, Estudiantes 2, River 1 et Independiente 0, Lanús 1. La Coupe de la Ligue comporte deux phases. Dans la première, 26 équipes réparties en deux zones s'affrontent. Les quatre meilleurs de chaque poule passeront à la deuxième phase où elles avanceront par élimination directe jusqu'à la finale. Plus loin en Argentine. Le 8 février, l'ambassade de France en Argentine, l'Institut français et le réseau des alliances françaises dans le pays ont lancé en Argentine la campagne mondiale digitale de communication Plus loin qui propose, grâce à la langue française, d'aller plus loin dans ses études, dans son expérience de la vie, dans ses rêves, dans ses voyages, dans son parcours professionnel. Le dispositif se décline sur un site internet et sur les réseaux sociaux grâce auxquels les jeunes du monde entier peuvent échanger avec un francophone résident dans leur pays. Pour l'Argentine, des talents tels que la danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Ludmila Pagliero, le meilleur pâtissier de l'Amérique latine, Osvaldo Gross, l'ancien rugbyman et chanteur lyrique Omar Hassan ou encore l'artiste Pablo Reynoso ont participé à cette campagne. Et aussi Mauro Colagreco, chef cuisinier argentin renommé.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archiduchesse? Alors, je suis cuisinier. Je suis chef de ce restaurant que vous ne voyez pas, mais qui est un très beau restaurant qui s'appelle Le Mirasur dans la ville de Menton. Alors, quand j'étais enfant, je sortais tous les soirs. Je demandais à ma mère de regarder les ramasseurs de poubelles. J'étais totalement fantasié avec ces gens qui couraient derrière les camions et qui se baladaient dans la ville entière. Et donc, je voulais devenir ramasseur. La cause qui me tient à cœur, c'est un monde dans lequel on puisse bien nourrir toute la planète. Et bien nourrir toute la planète, c'est pouvoir avoir une nourriture qui soit saine et qui nous fasse du bien. Ça, c'est une grande cause. Comme cuisinier, c'est une responsabilité. C'est ce que j'essaye de faire chaque jour. Chaque matin, quand je me lève, je me demande comment je vais faire pour que les gens ils mangent meilleur. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ah, je l'ai bien dit.
Pour faire un bon speaker, il faut savoir speaker. On prend de la valeur à savoir répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Il avait 10 ans, le petit Pierre zozotait, et tout en zozotant, tout le temps, il chantait. Les semi-veux de l'artiduchesse sont altesses, artitesse, pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées, ah ben alors, faut répéter. Les semi-veux de l'artiduchesse sont altesses et artitesse. Mon voisin le Bougnat aime bien ce refrain-là. Comme il est auvergnat, il le chante comme cela. Les chemises de l'archiduchesse chantent-elles chèches, archichèches, pour qu'on dise cette phrase avec adresse. Il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse chantent-elles chèches et archichèches. Et ce n'est point tant m'allégé que vous le dites. Apprend cette chanson, seulement comme il est bègue, il chante de cette façon. Les chemises de l'archi.
C'est pas la peine de faire le malin, c'est pas si difficile que ça.
Ah ben essaye donc, on verra bien.
Les chemises de l'arci du sèche sont-elles chèches, arci chèches, pour qu'on dise cette phrase avec adresse. Il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous pas mouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chechesses de l'arci du mise. Oh zut, zut, sirnonche.
Bienvenue aux amis d'actualité dx.com.ar pour une nouvelle édition de notre rubrique sur les ondes courtes et le web, une production de Arnaldo Slaen. Dans cet espace, nous vous proposerons quelques-unes des nouvelles les plus pertinentes du monde de la radiodiffusion. La Direction nationale des communications d'Argentine, l'ENACOM, a lancé un appel d'offres public pour l'attribution de licences de radio FM dans les provinces de Catamarca, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero et Tucumán. La résolution 102-2021, publiée au journal officiel, a également approuvé le règlement régissant le processus d'appel d'offres public simplifié pour l'octroi de licences à des personnes physiques, à des personnes morales à but lucratif constituées ou en formation, et à des organisations à but non lucratif régulièrement constituées pour l'installation, l'exploitation et l'utilisation de services de communication audiovisuelle par modulation de fréquence, catégories E et F. La loi 26522 établit que les licences correspondant aux services de communication audiovisuelle non satellitaire qui utilisent le spectre radioélectrique seront attribuées au moyen d'un système d'appel d'offres public et permanent, habilitant l'ENACOM à résoudre les caractéristiques des appels d'offres. Radio-Éducation de Mexico a obtenu une nouvelle concession pour exploiter la fréquence AM de 1060 kHz avec une couverture dans la ville de Mexico après avoir rempli les conditions et devancé des opérateurs publics et sociaux qui étaient également intéressés par l'exploitation de la station afin de disposer de leur propre canal de communication dans le système de radiodiffusion de la capitale. XEEPAM restera pendant 15 ans encore entre les mains du ministère de la Culture, le titulaire légal de la licence de ce signal de spectre, mais dans la pratique, l'opérateur est Radio-Éducation, un organisme rattaché à cette agence fédérale. La nouvelle concession a été remise le 20 janvier 2021. Radio-Éducation avait obtenu une concession FM en 2017 pour migrer sa programmation AM vers la station XHEP FM 96.5 MHz, à condition que le nouveau signal transmette le même contenu AM, à condition que le nouveau signal transmette le même contenu AM pendant un an, P période comptée à partir du moment où cette dernière a commencé ses transmissions régulières, et qu'après cette date, elle soit obligée de restituer le signal 1060 AM à l'État, qui le reprendra en propriété pour le réattribuer ultérieurement par le biais d'un appel d'offres. Le document de l'Institut fédéral des télécommunications n'est pas encore public. Mais parmi les arguments en faveur de Radio-Éducation, figure qu'elle dispose d'une infrastructure déjà établie dans l'est de la capitale, dans la municipalité d'Iztapalapa, et avec le capital humain et le contenu nécessaire pour faire fonctionner la station sans délai, outre le fait que son signal FM a une puissance d'émission limitée à 3000 watts et une portée de 24 km sur la capitale. Alors que la bande AM couvre tout Mexico, Morelos et Tlaxcala, et les deux tiers des États de Mexico et Hidalgo. En d'autres termes, Radio-Éducation a aujourd'hui une couverture de 30 millions d'habitants entre ces deux fréquences AM, FM. Surtout, Radio-Éducation a démontré que son signal AM atteint des populations peu couvertes par d'autres stations à caractère social et que sa marque est très bien acceptée par les auditeurs au-delà de la vallée du Mexique. Le fait que la station féministe Violeta Radio ait son antenne de transmission sur l'infrastructure de Radio-Éducation a été un autre détail qui a été discuté au sein de la FIT afin de leur réattribuer la fréquence par le biais d'un nouveau titre de concession plutôt que par un simple renouvellement de l'ancien titre. L'obtention d'une nouvelle concession de spectre, outre le fait de conserver la fréquence, permettra à Radio-Éducation d'ouvrir l'espace à de nouvelles propositions de contenu et de différencier la programmation de 1060 et 96.5, ce qui permettra au public de bénéficier d'autres alternatives de communication et d'offrir un débouché à son patrimoine sonore. Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.